les chroniques Road Movies of Fic du professeur Rosemini.
Well, here we are on the road.
Yeah, that's where we are, all right.
Tous les dimanches à 11h30 sur le 888.
Survey some way free off of the war.
Et sur radiogrenouille.com.
Dans la dernière chronique, j'évoquais la manière dont le film Bonnie and Clyde d'Arthur Penn peut être compris par rapport à des films qui le précèdent. Soit qu'ils aient un thème voisin, soit qu'ils aient influencé formellement le cinéma d'Arthur Penn, etc. Et donc j'avais évoqué quatre niveaux de références possibles pour éclairer en fait la richesse du film de Penn. Aujourd'hui, je voudrais développer encore trois niveaux. Donc le cinquième niveau qu'on peut choisir pour analyser Bonnie and Clyde dans son rapport à d'autres œuvres cinématographiques, c'est de tout simplement de replacer Bonnie and Clyde dans la filmographie d'Arthur Penn, puisqu'on sait qu'une œuvre singulière s'inscrit toujours dans une œuvre, c'est-à-dire dans un parcours esthétique global. Arthur Penn, c'est bien sûr un cinéaste, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de théâtre et qui a fait aussi beaucoup de télévision. Notamment, Arthur Penn était le directeur artistique de la campagne de Kennedy. La campagne présidentielle de Kennedy, notamment, il avait dirigé les débats télévisés. C'est lui qui avait mis en scène les débats télévisés de JFK qui était opposé à Nixon à l'époque. Et donc, quand il s'empare du projet Bonnie and Clyde, qui existait avant lui, hein, comme je l'ai expliqué dans la dernière chronique, eh bien d'abord, il veut le tourner en noir et blanc, parce qu'il veut amener quelque chose de son univers. Les producteurs refusent. Et en tout cas, il apporte peut-être pas le noir et blanc, mais il apporte certains de ses thèmes de prédilection qui font qu'on peut éclairer Bonnie and Clyde avec les autres films d'Arthur Penn. Par exemple, on retrouve dans ce film la difficulté pour un individu à trouver sa place dans le monde, finalement. Alors ça, c'est un thème qui l'intéresse beaucoup. C'est un thème qui est déjà développé, par exemple, en 1962 dans son très beau film Miracle en Alabama, hein, qui porte sur la vie d'Hélène Keller, qui était donc gravement handicapée. C'est un thème aussi qu'on retrouvera après Bonnie and Clyde dans Little Big Man, par exemple, en 1970. Little Big Man qui évoque non seulement cette difficulté à trouver sa place dans le monde, mais aussi qui évoque le thème de la mystification, de la mise en scène de soi, de la construction de sa propre vie comme une légende. Ça, c'est un thème aussi qui est cher à Arthur Penn, qu'on va trouver par exemple dans Le Gaucher, hein, son film sur Billy the Kid, où Billy the Kid se réjouit des romans qui parlent de lui. On pourrait aussi penser au personnage interprété par Marlon Brando dans Missouri Breaks, hein, avec là aussi ce goût de la mise en scène de soi. Alors, Bonnie and Clyde, dans le film de Penn, sont effectivement les metteurs en scène de leur propre vie, avec ce que cela comporte bien sûr d'aléas. Hein, ça ne veut pas dire qu'ils maîtrisent tout, mais un metteur en scène ne maîtrise pas tout non plus quand il fait un film. Mais eux, c'est un peu pareil, ils maîtrisent certaines choses, et en tout cas, ils se donnent à voir. Ça, c'est très important. Ils se donnent à voir par le texte. On peut penser à la publication du poème que Bonnie Parker avait réellement écrit, hein, The Trail's End, qui a inspiré d'ailleurs la chanson de Gainsbourg, la très belle chanson de Gainsbourg. Donc, Bonnie and Clyde construisent leur propre légende par le texte et par l'image, puisqu'il y a une très grande importance dans le film d'Arthur Penn des photographies. Hein, dès le générique, on a des photographies d'époque. Et puis ensuite, dans le film, on prend beaucoup de photos, on montre beaucoup de photos. Alors, il y a des vraies photos donc, et des fausses photos. Et là aussi, on retrouve le goût d'Arthur Penn pour le rapport problématique au vrai et au faux, à la réalité. Et là encore, on retrouve cette idée d'un cinéaste sceptique, d'un cinéaste faussaire, d'un cinéaste qui ne croit pas que le cinéma puisse montrer la vérité. Hein, on est ici dans le champ de l'interprétation, dans le champ du cinéaste postmoderne, pourrait-on dire. D'ailleurs, il n'y a pas de message, à vrai dire, il n'y a pas de message didactique, fort heureusement, dans Bonnie and Clyde. Et Arthur Penn disait d'ailleurs, je le cite, « Bonnie and Clyde, je ne les approuve ni ne les condamne. » Fin de citation. Donc voilà, on est loin du côté didactique de certaines productions hollywoodiennes de l'époque, contre lesquelles, bien sûr, s'est construit le cinéma moderne.
Ça s'appelle « Histoire de Bonnie et Clyde ». Vous connaissez la vie de Jesse James et de son trépas tragique. Mais si vous aimez lire avant de vous endormir, voici l'histoire de Bonnie et Clyde.
Mais tu crois que si je l'envoyais aux journaux, ils l'imprimeraient en première page? Je vais le faire.
Bonnie et Clyde Barrow, c'est le fameux gang, le crime et leur empire. Ils volent, ils pillent, ils tuent, et celui qui trahit signe sa fiche d'agonie. On les traite de tous les noms de la terre.
Sixième niveau d'intertextualité. On pourrait aussi comprendre Bonnie and Clyde non pas par des films qui lui sont antérieurs, mais par les films qu'il a influencés et qui permettent de porter une lumière rétrospective sur ce film. Alors quand Bonnie and Clyde sort, d'abord ça fait un gros scandale, évidemment, et puis ça lance une mode aussi, notamment une mode vestimentaire. Il y a pas mal de gens qui s'habillent à la Bonnie and Clyde. Et en fait, les gens qui voient les acteurs des événements de 1968, hein, des révoltes étudiantes, des révoltes des jeunes, et ben, ils vont s'emparer du film d'Arthur Penn comme d'un symbole. Pourquoi un symbole ? Parce que dans le film, on va trouver une dimension libertaire, on va trouver le refus des conventions, des tabous, on va trouver ce droit, en quelque sorte, qu'ils revendiquent d'improviser leur vie, hein, puisqu'on est beaucoup dans l'improvisation. Et par rapport au cinéma, l'influence majeure de Bonnie and Clyde, c'est sans doute que Bonnie and Clyde est un des films qui a porté un coup fatal au code ACE, le fameux code ACE, qui était en fait un code d'autocensure du cinéma américain, qui existait depuis les années 30, justement, et qui interdisait notamment de montrer les malfaiteurs sous un jour favorable. Hein, et au nom de la morale, il ne fallait surtout pas que les films montrent les bandits sous un jour désirable. Et là, bien sûr, alors, ils sont montrés sous un jour très désirable. Évidemment, ce sont des bandits glamour, des bandits sexy. Et donc, le code ICE qui va être abandonné, ça va être aussi une bouffée d'oxygène pour le cinéma américain. Et on peut considérer, donc, d'une certaine façon, que tous les films américains qui sont postérieurs à 1967 doivent quelque chose à Bonnie and Clyde, en tout cas par rapport à cette fin de la censure et de l'autocensure. Alors, notamment, les films qui doivent quelque chose sont les road movies, hein, du tout début des années 70 ou de la toute fin des années 60. Et le point commun entre beaucoup de ces films, d'ailleurs, Easy Rider, Vanishing Point et d'autres, Macadam à deux voix, eh bien, le point commun avec Bonnie and Clyde, c'est qu'on trouve une certaine immaturité des personnages. Ça, c'est quand même un point commun qu'il y a déjà dans le film d'Arthur Penn. Et puis, l'absence aussi, ça c'est intéressant, de toute revendication politique ou idéologique. Finalement, Bonnie and Clyde, ils disent jamais qu'ils veulent détruire le système pour telle et telle raison idéologique. Ils improvisent leur vie pour le plaisir d'improviser leur vie. Et c'est aussi ce qu'on va retrouver dans beaucoup de road movies, finalement, où il n'y a pas de motivation politique précise. En fait, on est ici dans le cadre d'une fuite en avant, sans motivation, qui est caractéristique, selon Deleuze notamment, justement, de la modernité cinématographique. Alors, septième et dernier niveau de référence, donc on voit quand même qu'il y en a beaucoup, eh bien, le septième niveau, c'est la relation à un film d'une toute autre nature. Alors là, on n'est plus dans le champ du cinéma, on n'est plus dans le champ de la fiction, on est dans le champ du film d'amateur pris par hasard. Et là, je me référerai à un livre très intéressant que Jean-Baptiste Thoré a écrit, qui s'appelle 26 secondes, l'Amérique éclaboussée, qui est édité chez Rouge Profond, avec justement un avant-propos d'Arthur Penn, et qui réfléchit sur la façon dont le film de l'assassinat de Kennedy, qui a été fait donc par un amateur, hein, Abraham Zapruder, comment ce film a influencé le cinéma américain, notamment le photogramme, le fameux photogramme où on voit le crâne de Kennedy qui explose. Selon Thoré, donc cet impact serait majeur, hein, il y aurait un impact majeur sur le cinéma américain. Alors, avec l'abandon du code ICE, j'en ai parlé tout à l'heure, avec la naissance du film gore, et puis bien sûr aussi avec la scène finale de Bonnie and Clyde. Nous revenons à notre film. Dans la scène finale de Bonnie and Clyde, où donc les deux héros, entre guillemets, sont tués par les policiers, il y a au moins deux allusions directes et conscientes, hein, de la part de Penn à l'assassinat de JFK. D'abord, ce sont les oiseaux qui s'envolent juste avant la fusillade. Et puis, c'est surtout le cerveau qui jaillit du crâne de Clyde Barrow, auquel Arthur Penn tenait beaucoup, comme à une allusion directe, encore une fois, à cette image du crâne de Kennedy explosant. N'oublions pas que Penn avait été le directeur artistique et technique de la campagne de Kennedy, de la campagne électorale de Kennedy. Et d'ailleurs, pour tisser encore un autre lien, Kennedy avait demandé à Warren Beatty de jouer son propre rôle dans un film, ce que Warren Beatty avait refusé. Alors, pourquoi c'est important tout ça ? Parce que dans les années 60, justement, la violence globalement envahit les médias, la violence envahit notamment la télé. Le cinéma hollywoodien est très en retard par rapport à tout ça, hein. On est encore sous un régime de monstration de la violence qui est très détourné, très édulcoré. Bon, la violence, c'est celle donc des assassinats politiques, j'en ai parlé, celle du Vietnam, hein, qui apparaît sur les écrans américains à partir de 65, celle des émeutes raciales, etc. Et donc, selon Jean-Baptiste Thoré, Bonnie and Clyde est vraiment symptomatique de cette influence de la violence sur le cinéma. Et selon lui-même, en fait, Bonnie and Clyde ouvrirait un cycle, une boucle, qui se refermerait avec le film de Giorgio Romero, Zombie, en 1978, puisque Toré écrit que finalement un des thèmes essentiels de zombies, c'est l'éclatement des crânes, hein, puisque pour tuer les zombies, il faut leur tirer dans la tête, justement. Pour éclairer tout ça, on peut citer deux propos d'Arthur Penn à propos du film justement d'Abraham Zapruder, hein, le film amateur qui montre l'assassinat de Kennedy à Dallas. Voilà ce que dit Penn. Il dit « Après cela, regarder un écran renvoyait à un type d'expérience forcément différente. Hein, » donc après avoir vu l'assassinat de Kennedy en direct. Et puis, autre citation, « La mort de JFK a tout changé. Nous sommes passés de la naïveté d'une société d'après-guerre plutôt paisible et confiante à une période subitement violente. » Fin de citation. Voilà. Alors, en conclusion de ces deux chroniques consacrées à Bonnie and Clyde, bien sûr, c'est sept niveaux de référence cinématographique qui sont complémentaires les uns des autres. Et puis, ils nous prouvent ce qu'on savait déjà, mais c'est quand même important de le rappeler, que le regard que nous portons sur un film n'est jamais neutre, n'est jamais neuf, n'est jamais innocent, et que nous apportons, bien sûr, dans notre regard porté sur le film, tout un tas de connaissances, d'expériences cinématographiques et autres qui vont informer finalement notre vision du film. Voilà. Bonnie and Clyde, c'est un film qu'on peut voir sur les écrans de cinéma en ce moment, à Marseille, dans sa région, grâce à un cycle. Donc je vous incite à aller voir sur Internet si vous pouvez voir ce film, qui est quand même un très grand film de l'histoire du cinéma. Notamment, vous pourrez le voir, si vous êtes libre, au Renoir, au cinéma Le Renoir à Martigues, le 25 octobre.
Les chroniques Road Movies of Fic du professeur Rosmini.
Well, here we are on the road.
Yeah, that's where we are, all right.
Tous les dimanches à 11h30 sur le 888.
Surveys are only free all for the war.
Et sur radiogrenouille.com.